On va se confier à la Vierge Marie, qu'elle qui a reçu l'Esprit Saint pour enfanter le Verbe de Dieu, qu'elle nous donne aussi cet esprit de lumière pour comprendre le mystère de la foi, particulièrement le mystère de la foi au service des hommes dans la doctrine sociale de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Assomption, trône de la sagesse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous continuons notre chemin dans la doctrine sociale de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets qui vont ensemble, ce que nous appelons la communication des biens. Alors on va voir un peu ce que ça veut dire. Et puis forcément, vous allez le comprendre très vite, dès qu'on va aborder la communication des biens, on est obligé de se poser aussi la question de la justice sociale. Voilà. Donc un petit rappel, d'abord la doctrine sociale de l'Église, donc son domaine d'application, c'est le monde, c'est l'entreprise, l'autorité, les impôts, tout ce qui régit les rapports des hommes entre eux. Voilà. Alors nous avions vu au moins il y a 15 jours, puis ça a dû être abordé dans les différentes interventions aussi. Nous voyons bien que la liberté qui nous est donnée par Dieu, et l'évangile de ce jour est très éclairant à ce sujet, ne suffit pas. Voilà. C'est-à-dire que Dieu nous a donné notre liberté, la liberté qu'il a en plénitude. On dit même qu'il a pris ce risque de la liberté, et quand on voit le mal que l'homme est capable de faire, on comprend ce que ça veut dire. Quand on voit aussi tout le bien qu'il est aussi capable de faire, on voit que ça valait le coup. Mais on voit que la liberté ne suffit pas, et aujourd'hui dans l'évangile du fils prodigue ou du père miséricordieux, elle a beaucoup de titres cette parabole, nous voyons que le père laisse libre son enfant de partir avec l'héritage, de le dilapider malheureusement, j'y reviendrai plus longuement dans l'homélie, mais donc la liberté ne suffit pas et on a besoin d'un code entre guillemets, pour de règles en tout cas qui sont nécessaires pour l'accroissement du bonheur de tous. Alors justement, la responsabilité du chrétien dans le monde, et particulièrement vous qui êtes laïque, la responsabilité c'est de se dire quelles règles avons-nous besoin pour que le règne de Dieu soit là. Alors quand on dit quelles règles avons-nous besoin, il ne faut pas entendre dire comment est-ce qu'on va faire du bourrage de crâne et permettre que l'évangile soit annoncé. Non, c'est qu'est-ce qui va permettre d'accueillir dans la société le règne de Dieu. Alors l'homme est un être social par nature. Nous sommes des êtres sociaux naturellement. L'homme n'est pas fait pour être seul, c'est la Genèse. Et on va lire le premier texte.
Qu'est-ce que la communication des biens ? La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités, ses possibilités. Il répond ainsi à sa vocation.
Voilà, donc ce premier extrait du catéchisme nous le rappelle très clairement, nous sommes faits pour la relation, nous sommes faits pour la communication, et c'est d'ailleurs l'un des critères pour savoir si une loi sociale est juste, c'est est-ce que la communication des biens, on va y revenir, est favorisée ? Est-ce que l'échange, est-ce que la dimension sociale de l'être est favorisée par cette loi ? Et si on peut répondre oui, alors sans doute que cette loi est un progrès. Mais si la communication des biens, c'est-à-dire l'échange, est entravée, eh bien c'est souvent signe que la loi n'est pas forcément bonne. Alors, qu'est-ce que cette communication des biens ? Elle part de deux constats. Le premier constat, c'est que l'homme ne peut rien tout seul. Voilà. Nous sommes des êtres humains et tout seul, nous ne pouvons rien. On parle pas même, sans parler même du salut, hein. Mais dans notre vie quotidienne, si il n'y avait pas des gens qui avaient fabriqué ces bancs, on ne serait pas assis, on serait debout, cette chaise. S'il n'y a pas nos aînés qui avaient construit cet édifice, nous ne pourrions pas venir prier dans ce lieu. S'il n'y avait pas des ingénieurs, nous serions venus à pied. Alors pour certains, ce n'est pas grave, pour d'autres, c'est plus loin. Vous voyez, tout seul, on ne peut rien. Et donc, c'est ce premier constat et qui part de l'enfant. L'enfant est d'abord dépendant de ses parents, avant de devenir plus libre, et puis il grandit. Et c'est sur ce constat que va se baser la communication des biens, c'est-à-dire, on ne se fait pas tout seul, on se reçoit des autres, on se reçoit de Dieu, c'est-à-dire que c'est les autres et Dieu qui nous révèlent qui nous sommes, qui nous aident à le manifester. On va lire le texte 2.
En venant au monde, l'homme ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire au développement de sa vie corporelle et spirituelle. Il a besoin des autres. Des différences apparaissent liées à l'âge, aux capacités physiques, aux aptitudes intellectuelles ou morales, aux échanges dont chacun a pu bénéficier, à la distribution des richesses. Les talents ne sont pas distribués également.
Alors justement, cette question des talents qui ne sont pas distribués également, ça va être le sujet de la justice sociale dont on va parler après. Donc voilà, nous sommes d'abord dépendants et finalement, vous savez, Jésus dans l'évangile qui dit que le royaume des cieux sera accessible à ceux qui ressemblent aux enfants et notamment dans cette dépendance, qui savent se reconnaître dépendants de Dieu. Le deuxième constat, c'est que nous sommes tous différents. Pas simplement masculin, féminin, mais nous sommes tous différents. Il suffit de nous regarder ce matin. Des petits, des grands, des plus âgés, des plus jeunes, des cheveux gris, des cheveux moins gris. Voilà, on est tous différents. C'est le fondement de la communication. Un enfant, dans tel milieu, va recevoir plus ou moins, et il n'y peut rien, et c'est source d'inégalité. Des enfants qui naissent dans une famille où des parents s'aiment, ben forcément, sa croissance va être favorisé par rapport à un enfant qui va naître dans un climat où malheureusement, soit il manque l'un ou l'autre, soit il manque carrément les deux, les orphelins. Et donc on voit finalement que la communication, c'est-à-dire l'échange, est assez inégal. Et ce n'est pas pour ça qu'il est injuste. On y reviendra. Mais les biens matériels et immatériels, je vais y revenir très bientôt, eh bien, dans le premier temps, proviennent de la famille. C'est la famille qui est le premier lieu où se transmettent ces échanges. Alors, on peut lire justement le troisième texte à ce sujet.
Ces différences appartiennent au plan de Dieu qui veut que chacun reçoive d'autrui ce dont il a besoin et que ceux qui disposent de talents particulier en communique les bienfaits à ceux qui en ont besoin. Les différences encouragent et souvent obligent les personnes à la magnanimité, à la bienveillance et au partage. Elles incitent les cultures à s'enrichir les unes les autres.
Donc voilà ces deux constats. Nous sommes d'abord enfants. Et donc nous sommes dépendants et nous sommes tous différents. Alors, la communication, c'est-à-dire l'échange positif, constructif, ou même l'échange, même dans la controverse, quand on a des choses moins agréables à dire, il faut quand même les dire. Et dans tous les cas, la doctrine sociale dit, dans tous les cas, la communication, les échanges permettent d'avancer et de progresser. Alors, le texte numéro 4 est tiré des dialogues de Sainte Catherine de Sienne. Donc Sainte Catherine de Sienne a eu un certain nombre d'extases, donc elle est docteur de l'Église. Hein. Et elle a dicté, du coup, à ses sœurs ce qu'elle voyait dans ses extases, ce que Jésus lui disait. Donc, oui, on peut dire le texte 4. Donc c'est le Christ qui parle à Sainte Catherine.
Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun. Il en est plusieurs que je distribue de telle manière, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. À l'un, c'est la charité, à l'autre, la justice, à celui-ci, l'humilité, à celle-là, une foi vive. J'ai voulu qu'ils eussent besoin les uns des autres et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces et la libéralité qu'ils ont reçues de moi.
Ce que ce docteur de l'Église, Sainte Catherine, nous fait voir, c'est que nous sommes nécessaires aux autres, les autres sont nécessaires à nous, et c'est une volonté de Dieu. Donc nous ne pouvons pas chercher à contenir en nous toutes les qualités. C'est pas ainsi que Dieu le voulait. Alors justement, on voit à travers tout ça que dans les familles, dans les entreprises, dans les paroisses, dans les communautés, quand il n'y a plus de rapport, quand il n'y a plus de communication, quand il n'y a plus de lien, là où rien ne se transmet, ne se dit, il y a un grand danger, voire un danger de périclitation, voilà, de mort, parce que ce pourquoi nous sommes faits fondamentalement, eh bien, n'existe pas. Et donc, en fait, la communication des biens, avant de le détailler plus spécifiquement, en fait, c'est la charité. Et là aussi, un des critères d'une loi sociale, l'Église va dire, si une autorité veut supprimer des occasions d'exercer la charité, cette loi va être régressive. C'est-à-dire, si on va faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin que les hommes se parlent, qu'il y ait d'échanges, ce ne sera pas une loi moralement bonne pour l'Église. Et au contraire, elle va dire que l'État doit tout faire pour permettre les échanges entre les hommes, les femmes, entre toutes les strates d'une société, dans les familles. Alors, l'État ne va pas tout faire. Hein. Quand on parle de ça, on entend l'État va le favoriser. Mais si une loi étatique décide il est impossible de discuter, voilà, ce sera une loi qui sera inique, qui ne sera pas bonne, puisqu'elle ne va pas favoriser l'accroissement de la charité, et donc elle ne va pas permettre l'échange entre les hommes. Alors, parlons un peu plus spécifiquement de ce qu'on appelle donc cette communication des biens. Qu'est-ce que c'est que ces biens dont on parle ? Donc il y a deux sortes de biens, il y a les biens matériels et les biens immatériels. Les biens matériels, c'est nourriture, vêtements, voiture, une maison, un toit, voilà. Et donc, ces biens-là, ils sont faits aussi pour être partagés, et ils sont faits eux-mêmes, ils sont la source du partage. C'est-à-dire qu'une personne n'a pas conçu tout ce que nous avons. Il y a eu un concepteur, des personnes qui l'ont construit, des personnes qui l'ont acheminé. Voilà, il n'y a pas une personne qui fait tout. Seul Dieu le fait. Et puis il y a des biens immatériels, donc la culture, la foi, un savoir-faire, un savoir-être, une langue. Voilà. Et tout ça, toutes ces choses, tous ces biens, ils n'augmentent que s'ils sont communiqués. Une langue qu'on ne pratique plus, on l'appelle une langue morte. Une foi qui n'est pas pratiquée, c'est une foi morte. Un savoir-faire qui n'est pas transmis, ben, c'est très bien, j'aurais peut-être l'orgueil de me dire, il n'y a que moi qui l'aurais, mais pas de bol, ça ne va pas se transmettre, et c'est fait pour ça. Donc, tous ces biens, ils n'augmentent que quand ils sont communiqués. L'exemple le plus flagrant, c'est l'héritage. L'héritage, il commence à la mort. Et ce qui est transmis, eh bien, prend alors toute sa valeur. Parce que la personne n'a pas gardé pour elle, mais elle a voulu donner, justement, il y a ce don, cet héritage, qui permet de faire accroître la charité. Là encore, c'est très en lien avec l'évangile aujourd'hui, où le fils prodigue, enfin, quand il revient, son père dit « il était mort ». Il était mort, mon fils, là. Il est parti, il a dilapidé, il a eu faim, il s'est éloigné de moi. Mais il revient à la vie, il revient à la source, et du coup, je le pardonne et je le réintroduis dans la communion. Alors, il y a une hiérarchie dans ces biens, c'est que les biens immatériels donnent la valeur et la fécondité aux biens matériels. Donc la foi, la culture, la langue, c'est ce qui vont permettre les biens matériels, la voiture, le toit, voilà. On va passer directement au texte 9 à ce sujet. Vous pourrez lire les autres textes chez vous.
Quand on définit de nouveaux besoins et de nouvelles méthodes pour les satisfaire, il est nécessaire qu'on s'inspire d'une image intégrale de l'homme qui respecte toutes les dimensions de son être et subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles.
Donc dans cette encyclique Centesimus Annus, donc pour les 100 ans de la première encyclique sociale de Léon XIII, Rerum Novarum, Jean-Paul II le rappelle de manière très claire, l'image intégrale de l'homme est au cœur de tout. Et si on construit un monde en dehors de ce qu'est l'homme, on va à sa perte. Et il y a aussi cette hiérarchie dont je vous parlais, c'est-à-dire que les dimensions instinctives, les dimensions intérieures et spirituelles sont subordonnées, c'est-à-dire qu'elles sont, supérieures, et elles guident les dimensions qui lui sont subordonnées, c'est-à-dire les dimensions physiques et instinctives. Si on privilégie non pas le fond, mais la forme, en gros c'est ça que ça veut dire, si on privilégie la forme plutôt que le fond, c'est souvent, il n'y a pas de progrès social. Alors quels sont ces besoins fondamentaux ? Eh bien c'est la charité. Le besoin fondamental, c'est aimer et être aimé. Voilà, tous les autres besoins se résument là-dedans. Et qui est à la fois la vertu surnaturelle, la charité est une vertu qui nous est donnée au baptême, une vertu qui nous fait aimer Dieu et notre prochain pour l'amour de Dieu. Un autre besoin fondamental, c'est le sentiment d'appartenance à une communauté. Alors ce sentiment d'appartenance, il est mauvais quand il devient exclusif. C'est-à-dire que si on imagine que ma petite communauté est supérieure, là, c'est plus un sentiment d'appartenance. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais par contre, le sentiment d'appartenance à une communauté, donc la famille, la nation, c'est même la raison première des syndicats qui ont été largement poussés par l'Église au début de l'ère industrielle. C'était justement de se dire, ne laissons pas seuls des êtres déjà un peu fragiles face à des personnes qui pourraient les manipuler et se servir et bafouer la dignité de l'être humain. Et donc ce sentiment d'appartenance, quel qu'il soit, c'est aussi un besoin fondamental de l'homme et qui le remet, alors ce sentiment d'appartenance à la communauté humaine, vous voyez qu'il y a plusieurs échelons essentiels, mais qui appartiennent donc à cette hiérarchie des biens, biens matériels et immatériels. Et donc, comme on l'a déjà dit, finalement, on conserve en transmettant. C'est le fond de la doctrine sociale de l'Église sur la communication des biens, c'est de se dire, on conserve quand on transmet. Et si on veut conserver de manière égoïste, sans être dans le don, la communication, ça va se perdre. L'héritage est à transmettre. Sinon, si l'héritage il n'est pas transmis, il ne sert pas à grand-chose. Et donc, avant de passer aux moyens de la communication des biens, on va lire le texte 10 qui nous rappelle aussi que derrière tous ces biens, derrière tout ce que nous avons à transmettre et à vivre, il y a les devoirs qui sont antérieurs aux droits.
La foi est un acte personnel, la réponse libre de l'homme à l'initiative de Dieu qui se révèle. Mais la foi n'est pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut vivre seul. Nul ne sait donner la foi à lui-même, comme nul ne sait donner la vie à lui-même. Le croyant a reçu la foi d'autrui, il doit la transmettre à autrui. Notre amour pour Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi. Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux croire sans être porté par la foi des autres, et par ma foi, je contribue à porter la foi des autres.
Voilà, ça c'est fondamental aussi pour se souvenir de la responsabilité que nous avons les uns pour les autres. Et c'est beau de se dire que l'autre est responsable de mon bonheur et je suis responsable du bonheur de l'autre. Voilà ce que la doctrine sociale de l'Église nous enseigne à ce sujet sur la communication des biens. Alors justement, comment communiquer le mieux possible ? Car la communication des biens, donc vous avez compris, l'échange de ce qui est matériel ou immatériel, c'est un devoir et c'est une source de progrès. La définition du progrès dans la doctrine sociale de l'Église, il y a progrès quand il y a augmentation de la communication des biens. Alors cette communication, elle se fait de manière gratuite la plupart du temps, par les échanges informels, d'où la nécessité de ces lieux d'échange informels pour entretenir l'amitié, la fraternité. Et c'est le premier lieu essentiel, nécessaire, pour que se communique ce que nous avons de plus intime au fond de nous-mêmes et qui est fait pour être communiqué, comme on vient de le relire, notamment la foi aussi, comme le catéchisme nous l'enseigne. Ensuite, il y a d'autres moyens de la communauté, c'est par les communautés intermédiaires, donc les groupes humains dans lesquels l'homme vit et qui contribuent à le former et à lui permettre à son tour de donner aux autres. Alors il y a deux sortes de communautés intermédiaires. Il y a les communautés qu'on appelle de ressemblance, qu'on a parlé tout à l'heure, les syndicats, les associations d'anciens élèves, les associations de famille, les associations de patrons. Et le but de ces associations, de ces communautés, c'est d'obtenir des biens communs. Voilà. Alors souvent matériels pour ce genre de... moins immatériels, mais souvent matériels pour ce genre de communautés. On va lire le texte 12 à ce sujet.
À part la famille, d'autres groupes sociaux intermédiaires remplissent des rôles primaires et mettent en œuvre des réseaux de solidarité spécifiques. Ces groupes acquièrent la maturité de vraies communautés de personnes et innervent le tissu social ou l'empêchent de tomber dans l'impersonnalité et l'anonymat de la masse, malheureusement trop fréquent dans la société moderne.
Il a été clairement établi qu'une des raisons des manifestations des Gilets jaunes, c'était aussi ce sentiment de se sentir seul et désarmé face à ce qui pouvait se passer et qu'il y avait besoin de se rassembler, de se retrouver, d'échanger pour parler de cette souffrance qui habite un certain nombre de concitoyens. Donc, voilà, on peut transmettre, on peut échanger, voilà, de manière gratuite ou par ces communautés intermédiaires. Donc, la première chose, les communautés de ressemblance. Et les deuxièmes communautés intermédiaires, c'est ce qu'on appelle les communautés d'interdépendance. C'est-à-dire où des membres ne se sont pas choisis, mais une famille, une communauté quelle qu'elle soit, une communauté éducative, un équipage de bateau, enfin vous voyez, ils ont un même destin commun, beaucoup plus marqué que dans les communautés de ressemblance, même si il y a aussi un destin commun. Mais ce qui manifeste l'interdépendance, c'est que si l'un meurt du groupe, ben, je vais en être affecté. Pas simplement parce que c'est mon frère en humanité, mais parce que j'étais lié à lui de manière spécifique. Voilà. Et donc, ce sont ces types de communautés que l'Église invite à favoriser, plutôt que les communautés de ressemblance, même si elles ont toutes leur place, c'est plutôt des communautés d'interdépendance, parce qu'elles sont éducatrices et elles marquent qu'on est vraiment nécessaire aux autres et que le destin nous rassemble et nous marque et ne peut pas nous laisser indifférents. Ça vous est pas trop assommé, c'est bon ? Donc, vous voyez, quand on parle de tout ça, de l'échange, de l'héritage, il se pose nécessairement la question de la justice sociale derrière tout ça. C'est-à-dire, très bien, mais alors est-ce qu'il suffit de tout partager et puis du coup, tout ira bien est-ce qu'il suffit d'accueillir comme ça, comme on dit dans cette expression, toute la misère du monde, puis que tout sera réglé comment est-ce qu'on fait pour, face à un certain nombre de questions sociales, pour répondre de manière juste, sachant que, comme je l'ai déjà dit il y a 15 jours, il faut bien que nous distinguions, comme chrétiens, ce qui est de l'ordre de la nécessité vitale d'autrui et ce qui revient en politique. Et j'avais pris l'exemple de la migration. Il y a une question politique pour laquelle il est nécessaire de discuter, de se dire voilà, moi ça me gêne pas. Il y a une vraie question politique que doivent résoudre les hommes politiques, mais nous comme chrétiens, une personne est une personne et sa dignité doit être respectée, et donc je dois tout faire et je ne peux pas agir même contre sa dignité. Après, je peux regretter, je peux ne pas regretter, mais vous voyez, c'est hyper important de distinguer les deux. Il y a ce qui revient en politique, il y a ce qui revient, et la politique est une chose noble, dans le fond, la chose publique, et avoir le destin public en main, c'est une chose profondément noble. Le père François y est revenu la semaine dernière, je crois, assez longuement. Et il y a ce qui nous revient, nous, comme chrétiens, une personne humaine est une personne humaine, sa dignité ne peut pas être bafouée, sinon je bafoue mon Dieu. Et vous voyez que c'est deux choses différentes. Donc, quand on parle de la justice sociale, on parle justement du respect de la personne humaine et de ses droits qui en découlent. Et le respect de la personne humaine... Il n'y a plus de pile, mais... Ou sinon, je vais prendre l'autre après. Le respect de la personne humaine et de ses droits qui en découlent, c'est le cœur de la justice sociale. Donc, comme on l'a vu, l'homme a des besoins variés, économiques, spirituels, familiaux. Et il faut tout de suite distinguer la justice et l'égalité. Je vais prendre un exemple assez simple. Si vous donnez un steak à un enfant de 2 semaines, ça va être compliqué pour lui. Et ce n'est pas créer une injustice que de ne pas lui donner un steak alors que vous allez le donner à un enfant de 10 ans et que lui, vous allez lui donner son biberon. Vous ne donnez pas la même chose, mais vous assouvissez son besoin de nourriture. Et là, c'est essentiel. Mais c'est un exemple pour bien distinguer l'égalité de la justice. Nous avons un devoir de justice, c'est les œuvres de miséricorde, dans le chapitre 25 de saint Matthieu, nourrir ceux qui ont faim, mais on ne le fait pas forcément de la même manière. On respecte ce qu'est la constitution de telle ou telle personne. Et exercer la justice, c'est justement savoir aussi prendre en compte la différence. Et exercer une justice, c'est prendre en compte, d'ailleurs, on parle de procès, ou quand il y a la justice civile, et elle met définitivement mort, il reste quelques secondes de batterie. Mais justement, la justice va prendre... On va continuer avec ça, merci. La justice va justement prendre en compte, eh bien, les différences pour donner une justice justement qui soit juste, pas forcément équitable au sens où on l'entend, c'est-à-dire il faut que tout est tout pareil. Ça, c'est d'abord c'est impossible, puis c'est pas toujours souhaitable. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice ? La définition qu'en donne saint Thomas d'Aquin, c'est une volonté constante et perpétuelle rendant à chacun son dû. Voilà, c'est une volonté, la justice, c'est pas un sentiment, c'est une volonté, une décision. Donc du coup, je vais vous dire un peu quand est-ce qu'on peut mettre en... On peut dire qu'il n'y a pas vraiment justice. C'est une volonté constante et perpétuelle qui rend à chacun ce qui lui revient, à Dieu et au prochain. Voilà la justice. Donc la justice est une vertu. On appelle en termes un peu techniques aussi un habitus, c'est-à-dire une disposition stable. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une girouette la justice. Et je ne rends pas justice comme j'ai envie, quand j'ai envie, selon le sentiment du moment. Sinon, ce n'est plus la justice. Donc c'est une disposition stable, une habitude raisonnée, qui détermine à rendre toujours et partout donc ce qui revient à chacun. Donc par exemple, la prière de louange, c'est presque un devoir de justice. C'est qu'il revient à Dieu que nous le louons pour la grandeur de sa beauté, pour la grandeur de la vie qu'il nous donne. C'est pas d'abord un acte de piété où il faut que je coche. C'est un devoir de justice vis-à-vis de mon Seigneur. Prendre soin de la personne qui m'est donnée de rencontrer au moment T, chaque instant de la journée, c'est presque pas d'abord de la charité, c'est la justice. Je dois lui rendre, lui qui est créé à l'image de Dieu, ce qu'il a le droit d'attendre de moi, qui suis aussi créé à l'image de Dieu et qui reconnaît en lui la présence du Créateur. Vous voyez que c'est... La justice nous pousse au-delà simplement de « c'est bien, pas bien » ou de la justice qu'on appelle civile. Alors justement, on ne peut pas dire qu'il y ait justice s'il y a trois choses qui ne sont pas réunies. Comme on l'a dit dans la définition de saint Thomas, la justice est une décision de la volonté. Voilà. Et donc si la volonté est fluctuante, il n'y a pas de justice. Si par exemple la justice... elle dépend de l'humeur du jour, ben, ce n'est pas de la justice. Si aujourd'hui, et dans la vie quotidienne, ça peut arriver parfois parce qu'on est fatigué, parce qu'il nous est arrivé telle chose, et puis vous allez, j'allais dire un autre mot, vous allez reprendre votre enfant parce qu'il a fait telle chose, et le lendemain un de ses frères et sœurs va faire la même chose et vous n'allez pas le reprendre parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas vu, et du coup l'autre va dire ouais, mais c'est dégueulasse parce que moi tu m'as engueulé et puis pas là. Donc vous voyez que dans ce cas-là il n'y a pas eu justice puisque vous étiez pris par autre chose, et donc la justice demande de prendre du recul pour juger objectivement les choses. Donc si la volonté est fluctuante, il ne peut pas y avoir de justice. Si la volonté est partielle, il ne peut pas y avoir de justice non plus. Si on ne rend qu'une partie du droit, voilà, c'est-à-dire que je vais faire en sorte d'être très attentif juste à tel sujet, et puis le reste, je m'en fiche. C'est pas la justice, il faut prendre dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de justice si... elle est partielle, voilà. Et puis si elle est partiale aussi, si la justice est partiale, donc partielle c'est quand ça prend qu'une partie, partiale c'est quand ça rend, pour ceux à qui ça m'intéresse de rendre justice, donc de favoriser de manière injuste, hein, j'entends, quand c'est favorisé en aidant, en étant présent à la personne, c'est autre chose, mais favoriser de manière injuste, oui, là, ça crée des injustices. Alors, pour terminer, avant de laisser répondre un peu s'il y avait des questions, quelles sont les différentes formes de justice ? D'abord, on distingue deux formes de justice. Il y a la justice générale et puis la justice particulière. D'abord, qu'est-ce que c'est que la justice générale ? C'est celle qui favorise le bien commun dans son ensemble. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que le bien commun est favorisé. Et ce n'est pas forcément le ministère de la justice qui rend cette justice-là. C'est nous, comme disciples du Christ, avec tous nos frères et sœurs qui partagent notre destin commun sur cette terre en attendant le retour du Christ. Donc, par exemple, c'est, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la justice générale, c'est respecter la dignité de toute personne, à n'importe quel moment, quelles que soient les circonstances. Je dois respecter sa dignité. Voilà, ça, c'est le cœur. Un autre exemple de la justice générale, c'est de faire en sorte qu'il y ait des salaires dignes. Voilà, d'avoir des salaires indignes pour des personnes qui travaillent, c'est une entrave à la justice de ces personnes-là. Et ça, ça concerne la justice générale. C'est le bien de la communauté qui est visé de manière générale, mais aussi à travers chaque personne. Et après, donc ça, c'est la justice générale. On peut peut-être faire une petite pause en lisant le texte 15.
Il semble que, à l'intérieur de chaque pays, comme dans les rapports internationaux, le marché libre soit l'instrument le plus approprié pour répartir les ressources et répondre efficacement aux besoins. Toutefois, cela ne vaut que pour les besoins solvables, parce que l'on dispose d'un pouvoir d'achat et pour les ressources qui sont vendables, susceptibles d'être payées à un juste prix. Mais il y a de nombreux besoins humains qui ne peuvent être satisfaits par le marché. C'est un strict devoir de justice et de vérité de faire en sorte que les besoins humains fondamentaux ne restent pas insatisfaits et que ne périssent pas les hommes qui souffrent de ces carences. En outre, il faut que ces hommes, dans le besoin, soit aidé à acquérir des connaissances, à entrer dans les réseaux de relations, à développer leur aptitude pour mettre en valeur leurs capacités et leurs ressources personnelles. Avant même la logique des échanges à parité et des formes de la justice qui les régissent, il y a un certain dû à l'homme parce qu'il est homme en raison de son éminente dignité. Ce dû comporte inséparablement la possibilité de survivre et celle d'apporter une contribution active au bien commun de l'humanité. Les objectifs énoncés par Renum Novarum pour éviter de ramener le travail de l'homme et l'homme lui-même au rang d'une simple marchandise gardent toute leur valeur dans le contexte du tiers-monde et dans certains cas, il reste encore un but à atteindre, un salaire suffisant pour faire vivre la famille, des assurances sociales pour la vieillesse et le chômage, une réglementation convenable des conditions de travail.
Voilà le contexte général de la justice. Il y a des besoins qui ne peuvent être assouvis par la loi du marché, comme le rappelle Jean-Paul II. Et donc, ça, elle concerne chacun. Il n'y a pas besoin d'attendre de l'État qu'il le fasse. Ça nous concerne, nous, directement. Comment est-ce qu'on fait pour que la justice grandisse aujourd'hui, entre nous, après chaque instant qui passe ? Alors après, ce qu'on appelle la justice particulière, c'est ce que l'État, justement, va mettre en place pour que la justice puisse être effective. Et donc on en distingue deux. On distingue la justice commutative et la justice distributive. Donc la commutative, elle règle les rapports de particulier à particulier. Voilà, entre deux personnes, quand il y a un litige, il faut que ce soit réglé. Et la justice distributive, elle règle les rapports entre toute la société et ses membres. Voilà. Donc il y a deux niveaux, entre deux personnes, et puis entre la société et ses membres. Alors vous pourrez lire le texte 17 qui parle de la justice commutative, justement, et le texte 18 qui nous dit que voilà, nous avons le devoir de payer les impôts, les cotisations, même si parfois ça nous paraît... Alors on a le devoir aussi de dire, quand on n'est pas d'accord, vous voyez, de prendre part pour que justice grandisse. Mais voilà, c'est pas de... la justice adviendra parce que nous, à notre niveau, nous allons favoriser ce genre de justice de manière générale avec ceux qui nous sont donnés chaque jour de rencontrer. Et puis, il y a ce qui revient à l'État d'organiser voilà, entre deux personnes ou entre la communauté et ses membres. Alors, simplement pour terminer, on va lire le texte 19 qui nous montre que tout cela, c'est notre responsabilité, mais nous y parviendrons qu'avec la grâce de Dieu.
Sans le secours de la grâce, les hommes ne sauraient découvrir le sentier souvent étroit entre la lâcheté qui cède au mal et la violence qui, croyant le combattre, l'aggrave. C'est le chemin de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain. La charité représente le plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits. Elle exige la pratique de la justice et seule nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra et qui la perdra la sauvera.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.